Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
J'avais été enlevé le 23 octobre 2008 à Koudou. Après, le 18 décembre 2008, nous avons été transférés à la prison centrale de Makala. Et c'est là où nous sommes restés pendant 7 ans. Sans être jugé, personne n'est venu nous demander.
Et on ne s'est même pas dit pourquoi on vous a arrêté.
Et c'est nous plutôt qui voulions savoir pourquoi nous sommes arrêtés. En cela, nous avions même porté l'État congolais plainte.
Il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont jamais été jugés depuis plus de 6 mois, depuis plus d'une année. La prison de Makala renferme plus de 70% d'arrestations arbitraires.
Ce témoignage de Dr Jean-Pierre Mukasa Evano Kiboko, ancien prisonnier, illustre l'exemple des procès non tenus et dont les justiciables ou les personnes poursuivies par la justice se plaignent. Le droit à un procès équitable, c'est le sujet qui fait l'objet de votre magazine « Droit et citoyenneté » de ce jour. Pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable, il y a des aspects qui relèvent des personnes. Mais il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de justiciables. Au niveau des personnes qui viennent en justice, donc les justiciables, elles doivent pouvoir s'informer ou s'auto-former en lisant la loi pour connaître leurs droits. Car, dit-on, nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous n'avez pas une formation suffisante de pouvoir vous défendre vous-même, vous devez vous trouver un avocat conseil ou un défenseur judiciaire qui puisse vous accompagner tout au long de la procédure judiciaire, partant de l'OPJ ou de la police jusqu'au tribunal. La procédure pénale et civile joue beaucoup dans un procès. Si vous ne connaissez pas les règles de procédure, vous allez perdre et crier à un procès non équitable. Pourtant, vous n'avez pas suivi les règles de procédure. Qu'est-ce qu'un procès équitable? Que dit la loi à ce sujet? Quelle est la conséquence d'un procès non équitable? Tout au long de votre magazine, nous allons tenter avec les magistrats du siège et du parquet ainsi que les avocats de répondre à ces questionnements. Ce magazine est réalisé et présenté par Jeff Ngoyi Mulonda sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. Nous parlons aujourd'hui du droit à un procès équitable. Nous sommes dans une salle d'audience au parquet de grande instance de la Gombe où nous recevons l'organe de la loi ici représenté par le premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Christophe Moussem revient sur les témoignages concernant les procès non tenus, non équitables et l'absence d'assistance pour les justiciables que nous avons rencontrés au parquet.
Bon, le cas Jean-Pierre Bemba, est une leçon. Il vient de faire plus de 10 ans en prison et à la fin il a été acquitté.
Est-ce que son procès a été équitable?
On a trouvé. C'est un procès. Si la procédure a été respectée, les enquêtes ont été menées et qu'à la fin on se rende compte qu'il est acquitté. C'est un procès équitable parce qu'il a été acquitté. Mais il existe en ce moment-là ce qu'on appelle le droit à la réparation. Si cela a violé les droits, il faut saisir les juridictions compétentes pour solliciter réparation.
Indemnisation.
Indemnisation. Si cette personne qui a fait 11 ans n'avait pas, par exemple, de dossier judiciaire, il doit savoir comment j'ai fait 11 ans en prison sans avoir un dossier judiciaire.
Parce que je qu'est-ce qu'il doit faire finalement? Maintenant, il est en liberté.
En liberté, mais qu'il se fasse conseiller par les personnes ayant en charge d'accompagner les personnes, les avocats ou bien un défenseur de son choix et qui va lui dire comment il peut réclamer ses droits.
Parmi les garanties aussi, le justiciable doit se faire assister d'un avocat.
Oui, et c'est ce que dit l'article 19, que la personne peut se faire assister également devant les services. Dans l'article, il dit toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. Et c'est à tous les niveaux de la procédure, y compris l'enquête policière et l'instruction préjudicionnelle.
Donc, de l'OPJ,
au niveau de l'OPJ. À l'OPJ, on dit même devant les services des renseignements, la personne a le droit de se faire assister d'un conseil.
Alors que diriez-vous des gens qui sont gardés au secret dans des cachots, des services de renseignement?
Les services de renseignement ne relèvent pas du pouvoir judiciaire.
Mais les OPJ qui sont là-bas, qui sont les bras et les oreilles du parquet que vous êtes?
Non, la loi portant fonctionnement et organisation de l'Agence nationale de renseignement, ANR, dit que les officiers de police judiciaire de l'ANR dépendent du directeur général de l'ANR. Donc, ils ne sont pas ni contrôlés ni dirigés par l'officier du ministère public, le procureur de la République. La loi a voulu ainsi, le législateur l'a voulu ainsi, elle connaît les motifs pour lesquels nous ne pouvons pas diriger l'activité des officiers de police judiciaire de l'Agence nationale de renseignement. Lorsqu'ils ont instruit leur dossier, ils transmettent au directeur, c'est le directeur qui apprécie les dossiers à envoyer au procureur de la République. Nous ne dirigeons pas leur activité.
Là, je viens d'assister à une audience ici chez vous, oui, où les justiciables comparaissent devant le magistrat du ministère
ministère public seuls, sans être assistés? Est-ce que leur droit d'être assisté par un conseil de leur choix
n'est-il pas violé? Mais ils ont fait application. Ces justiciables ont fait application de ces dispositions en disant se défendre elles-mêmes. La loi dit que toute personne peut se défendre elle-même ou se faire assister. Nous ne savons pas s'ils ont voulu se défendre elles-mêmes ou bien ils n'ont pas de moyens. Mais le tribunal, lorsque quelqu'un n'est pas en mesure de se défendre elle-même, elle peut solliciter ce qu'on appelle l'assistance gratuite. Au niveau de toute la République, il existe ce qu'on appelle les avocats pro deo. Elle peut solliciter. Et il y a des matières où, obligatoirement, la personne doit être assistée. Lorsqu'une personne est poursuivie pour meurtre, obligatoirement, cette personne doit être assistée et le tribunal doit lui trouver un conseil, notamment en les référant auprès du barreau pour pouvoir obtenir un conseil gratuit.
À présent, suivons les explications du premier substitut du procureur sur ce que c'est un procès équitable.
D'emblée, je dirais qu'un procès équitable, c'est un procès qui respecte toutes les règles des procédures prévues par la loi. C'est un procès, par exemple, où la personne poursuivie est au courant du procès. Si elle n'est pas au courant de l'existence du procès, là on ne parle plus d'un procès équitable. Mais pour aborder ces thématiques, cette question, je voulais vous dire que la question est réglée par notre constitution. À l'article 19, je lirai la constitution, l'article 19, « Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Le droit à la défense de la défense est garanti et organisé. Toute personne a le droit de se faire défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. Et ce, à tous les niveaux de la procédure, y compris l'enquête policière et l'instruction juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. » Voilà les garde-fous que le constituant a mis dans la Constitution pour pouvoir accéder à un procès équitable. Il y a donc lieu à ce niveau de parler d'abord de ce qu'on enfreint par droit d'accès à un tribunal. Nous allons parler également des garanties pour pouvoir accéder à un procès équitable. Lorsqu'on dit que toute personne a le droit à un procès équitable, cela veut dire que toute personne a le droit d'accéder à un tribunal. Et cela même est précisé par la Convention européenne des droits de l'homme à son article 6. Parle également de ces dispositions de notre Constitution. Et donc, on ne peut pas parler du droit à un procès équitable si on ne sait pas accéder au tribunal. Et dans notre législation, la loi organise le fonctionnement des juridictions sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de ces tribunaux-là et de ces cours que le législateur a implantés sur toute l'étendue du territoire national. Là, c'est parmi les premiers principes, les premiers critères pour parler de l'accès à un procès équitable. Également, lorsque nous lisons l'article 19 de notre Constitution, il se dégage des garanties. Les garanties qui sont d'abord d'ordre institutionnel et puis il y a d'autres garanties d'ordre procédural. Au niveau des institutions, on parle d'abord comme institution, il faut un tribunal ou bien une cour. Si vous n'êtes pas devant un tribunal ou bien devant une cour, vous ne pouvez pas penser avoir accès à un procès équitable. C'est impossible.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Le magazine Droit et citoyenneté s'intéresse aujourd'hui au droit à un procès équitable. Que doit faire le justiciable pour bénéficier d'un procès équitable? Nous recevons Christophe Moussemé, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Nous sommes ici au parquet de grande instance de la Gombe. Est-ce que tous les procès qui se déroulent ici chez vous sont-ils équitables?
Non, c'est parmi les exigences. Je ne dis pas tous les procès ne sont pas équitables, sinon il n'y aurait pas de décisions annulées. Il existe des décisions qui sont frappées d'annulation parce que, par exemple, la procédure n'a pas été respectée. Il y a des procès qui ne sont pas équitables, mais il y a des procès équitables. C'est pourquoi on a prévu les voies de recours. Une autre garantie, c'est l'indépendance. La Constitution parle d'un tribunal indépendant. Donc cela suppose que les juges n'ont des ordres à recevoir, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Il doit être indépendant. Et son indépendance doit être renforcée par son inamovibilité. Le juge n'est pas quelqu'un qu'on déplace à gré, selon les rumeurs, ou bien selon qu'il n'a pas satisfait à telle demande ou à telle autre.
Parmi ceux qui jugent, nous avons également approché le juge Léopold Kondaloko, magistrat au tribunal de paix de Kinkolé.
Le procès équitable, c'est un procès qui se fait conformément aux normes prévues par le législateur, c'est-à-dire que un procès qui, dès son origine, c'est-à-dire à partir de la phase préjuridictionnelle devant l'OPJ, la Constitution prévoit ce que le prévenu soit assisté par un défenseur de son choix. Lorsque un prévenu est devant le magistrat, il a le droit de choisir dire un avocat ou un défenseur judiciaire pour qu'il soit assisté. Une fois l'instruction préjuridiction terminée, le dossier est fixé devant la juridiction, l'avocat a le droit d'assister son client ou le client ou le prévenu a le droit d'être assisté par un avocat de son choix. Jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à la décision à intervenir par le tribunal.
Oui,
C'est ça le procès équitable qui respecte les conditions prévues par la loi.
Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga est à la tête d'un cabinet d'avocats et conseille dans plusieurs affaires. Il nous parle aussi du procès équitable.
Un procès est dit équitable lorsqu'il répond à certaines garanties consacrées tant par les instruments juridiques internationaux que par les instruments juridiques nationaux. Il y a beaucoup de garanties qui sont assurées à tout justiciable, qu'il soit prévenu, victime, demandeur ou défendeur. Il y a certaines garanties que les instruments juridiques assurent à un justiciable. Et au titre des garanties, nous pouvons citer la garantie d'accès à un tribunal. Toute personne qui veut voir ses droits respectés doit avoir accès à un tribunal, à un juge. Après cette garantie, toute personne doit avoir accès à un juge impartial, c'est-à-dire un juge qui ne va pas juger avec son état d'âme. À côté de ces deux garanties, il y en a plusieurs. Nous pouvons également citer la garantie d'égalité de tous les justiciables devant la justice, sans distinction. Il y a la gratuité de la justice, il y a la garantie d'un juge qui doit être à la hauteur de sa tâche, pas un juge comme ceux qui viennent d'être trouvés qu'ils étaient non détenteurs des titres légalement réclamés pour exercer la fonction de juge. Il y a également la garantie que tout justiciable doit s'exprimer dans la langue qu'il comprend, doit être interrogé dans la langue qu'il comprend. Récemment, nous avons eu affaire dans un procès qui est en cours à un ministère public qui dit dans son procès verbal d'audition qu'il aurait entendu un justiciable en Tshiluba, langue de son choix, et que lui-même, le ministère public, aurait fait la traduction de Tshiluba en français. Et quand la défense prend la parole pour vérifier cet état de choses, on pose la question au ministère public de pouvoir interroger, s'ayant à l'audience, le prévenu en Tshiluba et qu'il continue à traduire. Il s'est avéré que le ministère public ne parlait pas de Tshiluba. La question était de savoir quelle valeur juridique accorder à un procès verbal établi par un ministère public qui a menti qu'il aurait entendu le justiciable en Tshiluba, langue de son choix, et qu'il aurait fait la traduction. Il y a encore une garantie, c'est-à-dire la justice doit être laïque. On ne doit pas se trouver, notamment pour notre pays, on est un pays laïque. Le juge qui siège ne doit pas faire des distinctions entre le justiciable musulman et le justiciable chrétien, ainsi de suite. Donc, les convictions religieuses, les convictions politiques ne doivent pas guider un juge face à un justiciable. Et puis, il y a une autre garantie, c'est la garantie de l'égalité des moyens de preuve. Toutes les preuves que produisent les justiciables en justice doivent être discutées de manière contradictoire. Il n'est pas bon de surprendre un justiciable avec des moyens qu'il ne découvre que lorsqu'on lui signifie un jugement. Donc, il y a un certain nombre de garanties. Je ne pense pas être en mesure de terminer toutes les garanties qui concourent à un procès équitable.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté se penche aujourd'hui sur le droit à un procès équitable. Maître Jean-Marie Kabengela, est-ce que toutes ces garanties que vous venez de relever sont observées à travers nos juridictions lors des procès? Qu'est-ce que vous constatez?
Nous constatons la plupart du temps que les juges et les magistrats violent certaines garanties d'un procès équitable, notamment les magistrats de parquet. Quand ils arrêtent un justiciable, la première des questions ou la première préoccupation, c'est d'informer la personne arrêtée de ses droits de la défense, l'informer pourquoi la personne est en état d'arrestation, l'informer de son droit d'être assisté d'un avocat. Curieusement, il n'informe pas, et quand bien même l'avocat se présente, donc l'avocat devient comme l'adversaire du magistrat. Récemment, dans un procès qui est encore en cours, les justiciables ont entendu se défendre en citant certaines personnalités officielles, notamment les membres du gouvernement. Je parle bien du procès Kamuina Nsapu. Les justiciables ont dit: vous nous poursuivez pour avoir attaquer la prison de Makala, mais c'est pas nous que vous taxez de Kamuina Sapur. Nous appelons ici le ministre de la Justice. Nous appelons le ministre de l'Intérieur. Nous appelons le ministre de l'Information qui ont dit sur les ondes des radios nationales et internationales qu'il s'agissait des adeptes de Bundu Dia Kongo. Le juge a refusé. Vous voyez, là, c'est une garantie parce que vous ne pouvez pas refuser à un justiciable le droit d'appeler en justice une personne ou d'apporter une preuve qui puisse le décharger. Donc, il y a cette méconnaissance de cette garantie de faire entendre une personne que le justiciable pense qu'il peut le décharger.
Le juge Kondaloko commente les exemples de procès qualifiés de non équitables par les avocats, notamment l'affaire des présumés Kamuina Sapu.
Là, le juge a le droit de dire non, parce que pourquoi? Le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de qualifier une infraction quelconque. Il est membre du gouvernement, il fait une déclaration politique. C'est vrai que lorsqu'il y a eu évasion, la première personne qui a pris la parole, c'est le ministre de la Justice. Nous l'avons suivi. Lui, il peut dire Kamuina Sapu, il peut dire Bundu Dia Kongo. Lui, c'est un politique. Mais la seule personne ou la seule autorité judiciaire compétente pour qualifier, c'est l'officier du ministère public, devant qui ces prévenus ont été déférés. Celui qui confronte le fait au droit et donne la qualification. Après avoir entendu les parties, les témoins, et il a la conviction pour dire, pour moi, voilà cette bande, je le qualifie de Kamuina Sapu ou de ceci, cela. Une fois que le ministère public est convaincu de la prévention qu'il a retenue, il fait la requête aux fins de fixation et le défère devant le juge. Le juge est tenu de fait que le procureur de la République a transcrit dans sa requête. Et c'est par rapport à ces faits-là que le juge doit juger, excusez-moi la tautologie, les prévenus. Mais après le ministre pour venir témoigner, le ministre viendra dire quoi? Parce que ce n'est pas le ministre qui a établi les faits. Le ministre, lui, c'est un politique, il a fait une déclaration politique.
Maître Jean-Marie Kabengele, en pareille circonstance, qu'adviendrait-il? Le procès continue?
Bon, le procès va continuer, c'est un motif d'annulation en cas d'appel et c'est aussi un motif de cassation en cas de pourvoi en cassation. Donc, la méconnaissance d'une garantie d'un procès équitable va toujours et fatalement amener à la censure d'une décision qui a été rendue en méconnaissance des garanties d'un procès équitable.
Pour se rendre compte des procès non équitables, des exemples sont légion selon divers procès dans lesquels Kabengele Ilunga a été ou est encore conseil.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Vous avez défendu Frank Diongo, vous aviez relevé aussi ces problèmes de non-respect de ses droits, le fait qu'il était condamné sur une chaise roulante, il ne savait pas marcher, nuitamment. Quelle est la conséquence de ces jugements? Qu'est-ce qui s'ensuit?
C'est une bonne question. En principe, on ne peut juger qu'une personne en état de comprendre la teneur des reproches, des charges, et être en mesure de donner ses justifications. Ce qui ne semble pas être le cas dans le procès Frank Diongo. Cette question me rappelle également une garantie qui a été négligé. Notre constitution, les instruments juridiques internationaux disent qu'on ne peut en aucun cas priver à un individu de son droit de faire recours. Alors, Frank Diongo a été jugé en premier et dernier ressort. Cette disposition est contraire à l'exercice de droit de recours. C'est ainsi que, exerçant son droit de recours, Frank Diongo a fait appel. Oh, il n'y a pas d'autres instances. Ce n'est pas le problème du justiciable. Le justiciable dit, la constitution me dit, quand je suis condamné, j'ai droit de faire recours. L'institution qui doit examiner des recours n'est pas du ressort, n'est pas de la compétence judiciaire. C'est au gouvernant de savoir comment, comme la Constitution prévoit le droit de recours, comment on va aider les justiciables à exercer son droit de recours. Donc, tout compte est fait lorsque un individu vous dit que je suis malade, qu'il est sur le lit de l'hôpital, n'est-ce pas? Il n'est pas bon de le forcer à parler, de le juger. Et parce que vous avez vu notre compatriote Jean-Pierre Bemba, son procès a duré 10 ans. Pourquoi ici il y a précipitation?
Et puisque vous évoquez le cas Bemba, est-ce qu'on peut détenir quelqu'un pendant 10 ans et à la fin on la quitte, on dit qu'il est innocent? Est-ce que son droit de détention a été respecté?
Dans le cas de Bemba, rien n'a été respecté. Je suis au regret de vous le dire. Comment expliquer que les deux belligérants centrafricains n'ont pas été appelés appelé parce que lui ne serait parti, n'aurait envoyé des troupes que à l'appui d'un des belligérants. Et les belligérants étaient sur place, eux qui utilisaient les éléments de Bemba. Voilà, ces gens-là n'ont pas été appelés. Et finalement, on prend 10 ans pour les juger et finalement l'acquitter. Jean-Pierre Bemba a droit à une réparation. C'est aussi ça, une garantie d'un procès équitable. Il a passé 10 ans, ça ne doit pas passer comme s'il n'avait pas fait 10 ans. On doit réparer. Revenons même sur le crime de subornation. La subornation des témoins est une infraction subsidiaire. Lorsque les faits infractionnels pour lesquels Jean-Pierre Bemba et ses complices auraient tenté de suborner les témoins n'existent pas, ça devient quoi en droit pénal? Ça devient une infraction impossible, sinon une infraction putative. Parce que on aurait tenté de suborner les témoins pour une infraction qui n'a pas existé. Quel aurait été l'intérêt pour Jean-Pierre Bemba et ses complices de suborner les témoins? Donc, si les juges de la CPI examinent à froid la prévention des subornations des témoins par rapport à l'acquittement pour les faits principaux, je pense qu'ils doivent arriver à la conclusion que l'examen de la prévention des subornations des témoins devient superfétatoire, sinon ça devient une infraction putative ou impossible.
Encore un autre exemple avec l'affaire le procureur général de la République contre Moïse Katumbi, dont l'avocat Joseph Mukendi alerte sur le risque d'un procès non équitable devant la Cour de cassation.
Notre client ne demande pas un régime de faveur. Il réclame l'application de l'article 19 de la Constitution congolaise qui interdit de détourner une personne de son juge naturel. En l'occurrence, le juge naturel, c'est le tribunal, et dans le cas d'espèce, le tribunal des grandes instances de Lubumbashi. Comme on l'a fait dernièrement dans l'affaire Stoupis, on l'a déféré devant le tribunal de paix. Et notre client ne comprend pas comment on peut le détourner de son juge naturel pour le déférer devant une autre juridiction dont il n'a pas le privilège de juridiction. Vous savez qu'il est toujours bon de bénéficier du double degré de juridiction. C'est même un droit dans le cadre des instruments internationaux. Et en le déférant directement devant la Cour suprême de justice, au lieu de le déférer devant son juge naturel, on risque de le priver de son degré d'appel et par conséquent, il y a donc un risque. Si un jugement, et ça peut toujours arriver qu'une décision ne soit pas conforme au droit, il n'y a pas possibilité de la corriger.
Le ministère public Christophe Moussemé réagit à son tour.
Oui, il faut noter que dans la procédure, il existe ce qu'on appelle des exceptions au principe. Par exemple, un magistrat est justiciable non pas en fonction des infractions commises, mais en fonction de sa personnalité. C'est ce qu'on appelle la compétence personnelle des juridictions. Donc, une personne, pour une infraction de la compétence d'un tribunal de paix, peut se retrouver être jugée par un tribunal supérieur à raison de sa personne ou à raison de sa fonction dans la société. Alors, par rapport au cas que vous nous donnez, le cas Franck, je n'ai pas assisté à ce procès. Vous me dites qu'il a été jugé en premier et dernier ressort. Je ne sais pas quelle est sa fonction actuelle. S'il est député, par exemple, le privilège de juridiction peut vous priver de certaines voies. Parce que si vous êtes député, vous êtes jugé à la Cour suprême de justice, et aujourd'hui, on parle de la Cour de cassation, vous n'allez pas avoir le double degré de juridiction parce que vous êtes un privilégié. Il en est de même du président de la République et du premier ministre. Ils sont jugés en premier et dernier ressort. Le fait qu'ils ont ces privilèges-là d'être jugés au plus haut, au sommet de la justice, cela les prive de ces doubles degrés de juridiction. Donc, ce n'est pas une violation de la procédure. C'est dans la procédure que cela est prévu. Mais maintenant, si dans l'impossible, une personne, que ce soit Moïse ou bien que ce soit Franck, est jugée par un tribunal incompétent parce qu'il ne bénéficie pas, par exemple, des privilèges, il n'a aucun privilège, en ce moment-là, on pourrait dire, dans cette hypothèse, que le procès n'est pas équitable parce qu'il a été soustrait devant son juge naturel. Donc, dans l'hypothèse, parce que je ne connais pas quel est le rang des personnes.
Nous restons dans les hypothèses.
On reste dans les hypothèses. Mais si une personne est soustrait du juge que la loi lui assigne, là, on va parler d'un procès non équitable.
Que peut en être la conséquence?
C'est une décision à annuler parce qu'elle a violé l'article 9. C'est une décision anticonstitutionnelle.
Dans votre introduction, vous avez dit que toute personne qui est arrêtée doit être présentée devant un tribunal pour être jugée dans un délai raisonnable. Que peut être ce délai? Puisque nous réalisons qu'à la prison centrale de Makala, il y a des gens qui sont là-bas sans être jugés. Ça fait plus d'une année. Ils n'ont jamais été présentés devant leur juge.
Les législateurs parlent du délai raisonnable. C'est-à-dire que quand on parle du délai raisonnable, c'est au cas par cas. Je peux vous donner en matière de violence sexuelle, par exemple. La loi a prévu que dans les 3 mois, il faut que les procès soient vidés dans les 3 mois à dater des faits. Au-delà des 3 mois, nous sommes au-delà du délai et là, on peut parler que la personne a été jugée en dehors du délai et que par ce moment-là, son procès n'a pas été équitable parce que le délai n'a pas été un délai raisonnable.
Alors, pour toutes les affaires civiles en dehors de
ce en matière civile, les règlements prévoient des remises acceptables et il y a des remises qu'on peut tolérer, mais il y a des remises non acceptables. Mais il faut noter qu'en procédure, il y a ce qu'on appelle les questions qui peuvent suspendre une procédure. Donc une procédure peut commencer au premier degré, on soulève une exception, on laisse d'abord l'affaire pour s'occuper de l'exception soulevée. Et ça peut rendre la procédure longue. Et c'est ce qu'on appelle en droit les dilatoires. Il peut y avoir des dilatoires lorsqu'on est de mauvaise foi. Mais il faut également noter qu'il arrive que des magistrats ne prononcent pas. Après avoir pris l'affaire en délibéré, ils ne rendent pas la décision dans les délais légaux ou bien renvoient l'affaire à plusieurs reprises. Cela peut rendre la procédure longue. Mais en matière pénale, vous dites qu'il y a plusieurs personnes qui sont à la prison de Makala, oui, qui n'ont pas encore reçu procès. Tout est fonction du délai de prescription. Par exemple, lorsque une infraction est punissable d'une année, la loi prévoit qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 ans parce que la prescription va courir. Mais quand on est devant une infraction de meurtre, la prescription c'est 10 ans. Mais la loi prévoit que la procédure peut aller au-delà de 10 ans, mais on ne peut pas dépasser 20 ans. Moi je trouve qu'on peut se retrouver dans une procédure longue, même de 5 ans.
Le ministère public complète la liste des garanties pour un procès équitable avant de conclure.
Il y a d'autres garanties qui ne sont pas liées à la personne qui vient en justice. C'est l'indépendance de la justice. Lorsqu'on est dans un pays, par exemple, où la justice n'est pas indépendante, cela pose problème. Et l'indépendance de la justice suppose que les juges ne reçoivent pas des ordres de qui que ce soit. Il n'y a pas de trafic d'influence, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Et que les décisions du tribunal ne sont pas sanctionnées avant d'être prononcées. On doit laisser les juges faire son travail en âme et conscience et ne pas les diriger dans la manière de rendre la justice. À part cela, nous avons également l'équité et les juges doivent motiver ces décisions. Lorsque les juges motivent ces décisions, les personnes poursuivies en justice comprennent que non, le juge a rencontré toutes nos préoccupations. L'impartialité du juge joue un rôle important. Les conditions dans lesquelles les juges travaillent jouent également pour pouvoir accéder à un procès équitable. La publicité des procès, il est important parce que le public sanctionne les décisions du juge. Lorsque le public suit les procès, c'est cela est une arme pour pouvoir réguler les juges et éviter des décisions secrètes, des procès secrets. On ne doit pas condamner quelqu'un en secret, sauf si cela a été décrété, les huis clos. Le tribunal doit pouvoir décréter les huis clos pour pouvoir procéder de manière secrète. Mais en dehors de cela, les procès doivent être publics. Et même les prononcés des jugements. On ne prononce pas les décisions en catimini. C'est ce qu'on appelle la publicité, les procès, les délais raisonnables. On l'a dit, pour pouvoir accéder à un procès équitable, l'affaire ne doit pas être tirée en longueur. Les juges, mais doit pouvoir rendre sa décision dans un délai raisonnable. L'État doit pouvoir mettre les conditions pour que les gens accèdent à un procès équitable. Parce qu'il y a les aléas qui ne sont pas liés aux parties au procès.
Voilà, nous recevions le magistrat Christophe Moussemé, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Nous parlions du droit à un procès équitable. Ce que le justiciable doit comprendre et doit savoir, comment il doit procéder lorsqu'il a affaire avec la justice. Merci Christophe Moussemé.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève Droit et Citoyenneté d'aujourd'hui qui s'est penché sur le droit à un procès équitable. Nous avons avec nos interlocuteurs défini le procès équitable conformément à la loi, ses exigences, ses garanties et les conséquences à tirer dans le cadre d'un procès non équitable. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.